Vous me faites beaucoup d'honneur. Être reçu par vous, qui êtes toujours de passage, est un grand privilège. J'en sais le prix.
Pas du tout, monsieur. Si vous m'aviez demandé à me voir, j'aurais moi-même provoqué cette rencontre. Une renommée sur l'Écosse excite naturellement la curiosité et excuse la mienne. Entrez et prenez place.
Je crois que nous avons des choses à nous dire.
Une foule de choses, en effet. Puis-je d'abord me permettre une question? Pourquoi ne vous voit-on que si rarement à Paris?
Mais justement, monsieur, parce qu'on vient m'y voir, et seulement m'y voir. Il va de soi que je ne pense point à vous. Nous sommes gens à nous parler. Mais la plupart n'en veulent qu'à mon apparence. Et je me fais ici l'effet de quelque animal exotique attirant le public des curieux par ce qu'il a d'étrange. Un philosophe a, malgré sa sagesse, ou bien à cause d'elle, un peu de peine à se voir préférer les traits de son visage au fond de sa pensée. L'air de Paris, sans doute.
On peut ne plus le respirer à quelques lieues d'ici.
Je vous entends. Mais quelque accompli que puisse être une maison des champs, on y manque toujours de ces commodités qui ne se trouvent que dans les villes. Et la solitude même qu'on y espère ne s'y rencontre jamais toute parfaite.
Et vous l'avez trouvée à Amsterdam?
Oui, pour un temps. Excepté moi, je n'ai vu dans cette grande ville aucun homme qui n'exerçât la marchandise. Et chacun y est tellement attentif à son profit que j'aurais pu y demeurer toute ma vie sans être jamais vu de personne.
Je n'avais point imaginé que la gloire vous fût si lourdement à charge.
Oubliez ma gloire, monsieur, vous me ferez plaisir. La conversation des personnes que j'estime est le plus grand bien de ma vie. Et je serais fâché que la nôtre fût empêchée par la trop haute idée que vous avez de moi. Ma réputation n'est pas si étendue, heureusement. Et pour vous parler sans détour, je la craindrais plutôt que je ne la désire.
Elle ne vous parut jamais enviable?
À votre âge, peut-être. À ce moment où ma pensée appelait la reconnaissance.
Appelait?
Ma raison, aujourd'hui, me tient quitte d'avoir raison.
Disposition admirable, assurément. Elle est le fait d'un esprit assez grand pour se suffire. Je n'ai point ce contentement, hélas. Et j'en suis encore à penser qu'un homme ayant trouvé la vérité se doit de la communiquer à ses contemporains. Pardonnez-moi cette naïveté.
J'ai de la sympathie pour elle.
Ainsi, vous ne feriez rien pour convaincre un interlocuteur de bonne foi?
J'abandonne ce soin à mes travaux, qui sont chez le libraire, et me garde ma liberté. Il n'est rien tant à quoi je tienne. Être libre de ne rien faire. Ah, monsieur, le loisir, quel bonheur!
Le loisir.
J'aime plus que tout ne rien faire. Apparemment, à tout le moins. Car le loisir, vous le découvrirez peut-être avec les ans, est un terrain où la pensée travaille à notre insu. Que l'on morde sur ma retraite, je ne puis donc le supporter.
Voilà qui donne tout son prix à ma réception.
C'est que nous avions des choses à nous dire. On m'a parlé de vos expériences à Rouen. J'ai réfléchi moi-même sur le vide et je serais intéressé par ce que vous pensez de sa nature.
J'ai écrit là-dessus un traité qui est en ce moment chez l'imprimeur et qui répondra, je l'espère, à votre curiosité. Si vous le permettez, je vous le ferai parvenir sitôt sorti des presses.
Je le lirai très volontiers, mais ce ne sera pas à Paris. La reine Christine a bien voulu penser à moi, et malgré les hivers du Septentrion, que je crains à mon âge, j'ai répondu à son invite. Adressez-moi donc, je vous prie, votre ouvrage à Stockholm. Je gage qu'il sera le sujet d'un de mes entretiens avec cette grande princesse. Elle est savante et ne répugne point aux disputes les plus austères.
Je lui ai envoyé ma machine arithmétique. Elle ne l'a peut-être pas oubliée.
La princesse a bonne mémoire. On me l'a dit.
Vous voici donc, monsieur, une nouvelle fois sur le départ.
Je n'ai aucune attache en France. À part les Francs, je suis partout, un peu chez moi, dans l'Europe, et vraiment chez moi nulle part. Mais il n'importe.
J'ose cependant m'étonner qu'un esprit libre et grand comme le vôtre ça puisse s'accommoder à ces contraintes auxquelles on est obligé dans les cours.
Je ne suis pas sûr que le mien s'en accommodera, mais l'épreuve a son intérêt. Voyez-vous qu'elle apprenne à mon esprit qu'il est moins libre et grand qu'il ne croyait.
Monsieur, vous me payez d'une boutade.
Est-il défendu de sourire?
Certes, non. Je n'en reste pas moins surpris qu'un homme tel que vous n'ait point trouvé son lieu, qu'il ait passé sa vie dans l'exil et que rien ne l'ait retenu dans son propre pays.
Il est vrai que j'ai pris grand soin de ne pas m'établir. Depuis 30 ans, je n'en ai passé, je crois bien, que 5 en France. Mais ce ne fut pas par hasard. Ma pensée aimait le voyage. Et si je n'avais tant vagabondé, nous aurions vécu moins bien ensemble.
Elle vous demandait le mouvement?
Elle voulait que j'échappasse aux liens habituels. La solitude, le silence et l'invisibilité lui semblaient préférables. Je lui ai obéi.
L'invisibilité?
Disons le masque. Je m'avance masqué depuis que j'ai quitté l'école. Il faut ruser avec les gens si l'on veut penser à son aise.
Il semble que penser soit pour vous le ressort de toute vie.
Je vous l'avouerai volontiers, je me plais à étudier les opérations de mon esprit, à me rassembler dans mon attention. Ce que je trouve est peut-être moins important que l'acte de la découverte. Il y a de la griserie à observer son mécanisme, à le maîtriser. N'en allez point imaginer que je passe mon temps à ma table à écrire. Je suis fort paresseux, je vous l'ai dit, et mon lit me retient quotidiennement 10 heures sur 24. Même ayant bien dormi, j'ai de la peine à m'en sortir. Mais après tout, ma méthode m'est apparue dans le désœuvrement d'un poil. À chacun sa méthode. Et vous, monsieur, dormez-vous bien?
Fort peu et mal.
Vous devriez vous promener avant que de vous mettre au lit. Cela vous relâche les sens.
Merci, monsieur, de ce conseil. Je l'apprécie d'autant que je ne l'avais pas espéré de notre conversation.
Vous en attendiez l'avantage, oui, je comprends.
Je n'étais pas venu, j'en conviens, pour entendre de vous ce que m'aurait dit ma nourrice.
Elle en sait sûrement plus que moi en bien des choses. Enfin, puisque nous sommes entre gens qui pensons, ne nous attardons point sur la santé. Voyons. Ah, si nous parlions du vide, je ne me tiens pas d'impatience au sujet de votre opuscule. Et si vous pouviez, en quelques mots, me donner une idée de vos conclusions...
Elle ne m'intéresse plus.
Tout de bon?
J'ai déjà donné trop de moi-même à la science. Il y a, je le sais depuis certaines rencontres que je fis, plus important que son objet, et je ne veux plus me distraire, je n'en ai plus le temps.
À votre âge.
On meurt quand Dieu le veut. Ma santé n'est pas bonne, il se peut que par elle, il m'avertisse. Et puis, quel que soit le cours de mes jours, je n'aurai pas assez d'années pour faire mon salut. Il requiert tout de moi, désormais.
Vous renonceriez à vos recherches?
Elles ne peuvent me mener qu'à la déception.
Comment le savez-vous?
Parce qu'au bout du compte, on ne sait rien. Et que mon âme a soif de certitude. Je ne peux donc l'étancher qu'à la source suprême.
Je vous entends, mais la science...
Elle ne nous dit rien de Dieu.
Elle peut nous aider à tout le moins à connaître son œuvre.
À la connaître. Enfin, monsieur, ce qu'elle nous enseigne est insignifiant. Je dirais même qu'elle accroît notre ignorance en feignant de la dissiper. Outre cela... qui est déjà bien dangereux. Elle nous incline à l'orgueil, en nous donnant à espérer que nous touchons au but, alors qu'il s'éloigne toujours à chaque pas que nous faisons vers lui. Tout cela n'est qu'illusion, j'en suis persuadé. Notre intelligence s'égare en de mauvais chemins. Pour ma part, je reviens au centre, où est la vérité, sa lumière.
Au centre.
Oui, à ma seule certitude.
À vous entendre, on dirait que vous en avez le monopole. Je crois en Dieu tout comme vous, mais sans en menacer personne.
Aurais-je menacé qui que ce soit?
Il y avait dans votre ton de voix une telle assurance. Je me méfie toujours d'une foi qui s'exprime avec cette voix-là.
Monsieur.
Ah, allons, monsieur, rasseyez votre esprit. Et si je vous ai offensé, je vous en demande pardon. C'est que j'arrive d'un pays où l'on parle paisiblement de Dieu.
Comment peut-on parler de lui paisiblement?
À Amsterdam.
Oui, vous avez raison, à Amsterdam.
C'est une bonne ville.
Oui. Pour se promener.
Pour y penser. Pour y penser inaperçu.
Pour moi, même seul dans ma chambre, en mon unique compagnie, je suis toujours sous le regard de Dieu. Quand je ne le sens plus sur moi, j'ai l'impression de tomber. Un abîme s'ouvre à ma gauche. Je suis quelquefois obligé d'y placer une chaise afin de résister à son appel.
Voilà qui est singulier.
Le vertige. Je gagerais que c'est une faiblesse inconnue de votre courage.
Il n'a point affaire à cela. Disons que Dieu, dans sa bonté, m'a préservé de ce dérangement. Mais vous me parliez à l'instant de certaines rencontres.
Oui, j'ai connu récemment deux gentilshommes qu'un prêtre, un ami de l'abbé de Saint-Cyran, avait ramenés à la foi. Leur conversation me conduisit à me donner à Dieu selon une nouvelle voie.
Une nouvelle voie?
Celle que les messieurs de Port-Royal ont adoptée. Ce sont de fort honnêtes gens, bien qu'ils ne soient point vus favorablement du pouvoir. Vous savez que l'abbé de Saint-Cyran, quoi qu'on n'eût jamais remarqué ni en ses paroles ni en ses actes aucun défaut, fut 5 ans en prison, qu'il n'en sortit que pour mourir et qu'il est devenu fort dangereux de se dire de ses amis.
Pourquoi?
Parce qu'il fut haï des jésuites et que ceux-ci sont tout puissants dans le royaume. Ils ont persuadé l'opinion. Vous savez leur art à cela.
J'ai été leur élève à la flèche.
Je l'ignorais.
Vous disiez?
Que la Sorbonne et les députés du clergé tiennent le souvenir de Saint-Cyran en grande méfiance. Il a été l'ami de l'évêque Jansénius et s'était rallié à sa conception de la grâce. Or, celle-ci n'eut point l'heure de plaire aux jésuites.
Vous avouerai-je que je suis assez loin de cette sorte de querelle?
Il est vrai que vu d'Amsterdam...
Pardonnez-moi de revenir dans notre conversation. Ne m'avez-vous pas dit, reprenez-moi si je me trompe, au bout du compte, on ne sait rien, on n'a aucune certitude. Il me semble pourtant qu'on sait que 3 et 2 font 5.
À quoi voulez-vous en venir?
3 et 2 font-ils 5?
Qui peut le contester?
J'en conclurai que les mathématiques sont, pour tous ceux qui savent compter, source de certitude.
Ah, monsieur, je le vois, nous ne sommes pas prêts de nous entendre. Il est vrai, d'une certaine vérité, que 3 et 2 font 5. Mais qu'ai-je à faire de cette vérité? Aurais-je parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir? J'arriverais à l'ignorance, d'où je suis parti en naissant. Ignorance qui se connaît, certes, ignorance savante, mais... ignorance... et je ne puis m'en satisfaire.
Est-ce bien vous, monsieur, qui parlez d'ignorance?
Tout ce que j'ai appris me la révèle.
On ne peut pas parler ainsi quand on a fait, comme vous l'avez fait, avancer les sciences à un âge où l'on joue encore à la balle. Et vous voir renoncer à l'usage d'un don que déjà vous exerciez avec tant de maîtrise...
Je ne cherchais qu'à fuir l'ennui, l'inquiétude et le chagrin. Ce n'était pas la bonne voie.
L'ennui, l'inquiétude et le chagrin...
Vous ne les avez donc jamais connus? Eh bien, monsieur, je vous envie.
Je n'en fus pas toujours préservé.
Alors vous devez me comprendre.
Je vous comprends quand vous me dites votre ennui, mais je ne vous suis pas lorsque vous mettez les sciences en accusation.
Que vous ont-elles donc enseigné?
Mais beaucoup de choses.
Oui, que l'univers est sans bornes et que l'homme, aujourd'hui, ne sait plus à quel rang se mettre. Je regarde de toutes parts et je ne vois partout qu'obscurité. Nous savons seulement que nous sommes tombés de notre place et que nous la cherchons sans succès dans les ténèbres.
Il est vrai que notre science est encore petite et que lorsque nous regardons le ciel...
Le silence éternel de ces espaces infinis. M'effraie.
Il vous effraie.
Oui, monsieur, il m'effraie. Et je plaindrai qui n'en a peur, car il méconnaîtrait notre vrai lieu. Dieu demeure notre séjour. Notre unique félicité est d'être en lui, et notre unique mal d'en être séparé. C'est la religion qui nous le dit, non la science.
Elle ne nous dit pas le contraire.
Elle nous fait perdre la conscience de notre faiblesse. Où est notre grandeur?
Allons, monsieur, que dites-vous? Si nous avons une grandeur, elle est pour moi dans l'exercice souverain de la pensée. Oui, là et rien que là.
Comment une pensée qui ne peut saisir son sujet n'avouerait-elle pas notre faiblesse? Or, prétendez-vous dominer l'infini? L'éternité? Ce serait pécher par orgueil.
Je ne crois pas pécher en essayant d'aller plus loin dans les mathématiques, qui me font pressentir une représentation de l'univers. Le système du monde est peut-être un système de nombres. Y aurait-il pour vous scandale à le penser?
Auriez-vous l'ambition d'être le constructeur d'un univers avec géométrie?
Puisqu'il y a de la mécanique là-haut, j'aimerais m'essayer à son calcul.
Si un homme le peut, ce serait vous, monsieur. Mais pas plus que l'éternité, l'infini n'entre dans les nombres. Alors on tremble. On n'arrête pas de trembler.
Le tremblement perpétuel n'est pas de ma nature. Je l'ai quelquefois éprouvé, il est vrai, mais sa solution était dans mon esprit.
Une solution à la peur?
Oui.
Dans votre esprit?
Dans l'empire qu'il a su prendre sur lui-même. Et encore une fois, n'allez pas, je vous prie, me soupçonner d'orgueil. Je vous l'ai dit, étudier les opérations de ma pensée, la voir, en quelque sorte, à l'œuvre, est mon plus haut plaisir. Mais plus encore, c'est un remède. Un remède à l'inquiétude. Et un accès à la paix souveraine.
Arriver à la paix par les nombres? Un chrétien peut-il soutenir cette façon de raisonner? Ne voyez-vous donc pas qu'il en arrive à vous faire passer de Dieu?
Je n'ai jamais douté qu'il avait mis le monde en mouvement.
Oh oui, il s'éclaude. Et après, vous n'avez plus que faire de lui.
Monsieur, vous me brûleriez si vous en aviez le pouvoir.
Non, monsieur. Il ne m'appartient pas de vous juger, et moins encore de vous brûler. Car j'ai connu moi-même un temps cet orgueil de l'esprit que j'ai eu tant de mal à dissiper. Je me permettrai seulement de vous dire qu'un vrai chrétien ne peut trouver la paix qu'en Jésus-Christ et que seule sa grâce peut la lui accorder. Hors d'elle, je ne vois que distraction coupable et orgueil de l'intelligence.
Je crois que vous dramatisez. On peut assurer son salut sans faire souffrir les sciences et être un bon chrétien tout en s'intéressant à la géométrie.
Vous lui demandez trop.
C'est qu'elle me donne beaucoup.
Je suis plus exigeant que vous, sans doute, sur ce point, car ce beaucoup, à moi, me paraît peu.
Vous êtes intraitable.
Je mesure ma vie mortelle à l'immortalité de mon âme. Il me faudrait avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence à ce sujet. Oui, je vous l'avouerai. L'indifférence en cette affaire où il s'agit de mon éternité m'irrite.
Nous ne voyons pas Dieu, je crois, avec les mêmes yeux.
Je crois que vous le déduisez, monsieur. Vous ne le voyez pas. Il est pour vous comme un principe, en moi comme une chaleur. Vous le pensez, moi je le sens. Voilà toute la différence.
Eh bien.
Mais... je vous parle trop de Dieu et pas assez de Jésus-Christ. Or, nous ne connaissons Dieu que par son Fils, et nous-mêmes ne nous connaissons que par lui. Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. Il a appris aux hommes qu'ils étaient malheureux et pécheurs, qu'il fallait qu'il les éclairât, les délivrât, les guérît, que cela se ferait si nous haïssions notre moi.
N'a-t-il pas dit pourtant qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même?
Il l'a dit.
Donc, si nous devons nous haïr... Mais laissons cela. Nous pourrions en discuter jusqu'à la fin du monde.
Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Et je me refuse à dormir pendant qu'il meurt.
Feriez-vous allusion à mes 10 heures quotidiennes de sommeil?
Je ne plaisante pas, monsieur.
Mais moi non plus. Je réponds seulement à cette sorte de fureur difficilement contenue que je soupçonne en vos propos. Oui, comme si j'étais à convertir. Bien qu'ayant vécu fort longtemps en pays protestant, je suis de la religion dont vous êtes, ai-je besoin de vous le dire? J'ai peu de goût pour la querelle, et je vous sens toujours au bord. Ne m'en veuillez donc pas d'aérer comme je peux la conversation. Ce n'est point d'un impie, mais seulement d'un homme.
Un homme pour lequel j'ai un profond respect.
J'essaierai de m'en contenter.
Pardonnez-moi, monsieur. Je n'étais pas venu avec l'intention de me disputer avec vous. Quel que soit son talent, un homme de mon âge a encore beaucoup à apprendre. Et vous êtes certainement un des seuls dont je puisse espérer quelques lumières. Je n'ai que trop tendance à m'échauffer. Oui, je le reconnais. Je vous prie de m'en excuser. Mais la raison vous est d'un tel appui que je suis, à l'inverse, tenté de voir son peu de tablature. À dire vrai, elle n'a plus ma confiance entière.
Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que son autorité m'est apparue en songe une nuit de novembre de 1619. J'étais alors en Allemagne, appelé par l'occasion des guerres, et comme je retournais du couronnement de l'empereur vers l'armée, le commencement de l'hiver m'arrêta dans un quartier où je demeurais tout le jour, enfermé seul dans un poêle. Une nuit donc, la nuit du 10 au 11 novembre. Je fis 3 songes. N'ayez crainte, je ne vais pas vous en infliger le récit. Le récit des rêves d'autrui est toujours d'un ennui mortel. Mais je vous dirai seulement que je leur dois la semence de ma méthode. Et sans doute beaucoup plus encore.
Qu'entendez-vous par là?
Je ne sais quelle lumière. Où je vis un instant le moyen de dissiper la ténèbre la plus épaisse. Ainsi, comme vous le voyez, si je fais cas de la raison, c'est par le biais du rêve. On travaille quelquefois en dormant au progrès de l'esprit.
Et ces 3 rêves, est-il permis de vous le demander? Pensez-vous qu'ils vous soient venus de Dieu?
Puisque ma volonté dormait, ils ne pouvaient venir que de lui.
Ne vous est-il point apparu que la raison, qui découvre sa caution dans le rêve, est en péril d'y perdre sa créance?
Il m'a semblé qu'elle y trouvait au contraire un supplément d'autorité.
J'admire votre dévotion à son égard, mais elle n'a pour moi jamais pu me faire oublier la dernière fin de la vie. J'ai beau faire le brave, je sais qu'on jettera dans peu d'années quelques pelletées de terre sur ma tête, et tout ce que je mets devant moi pour m'empêcher de voir le précipice ne m'empêche pas d'y courir. Que peut la raison à cela?
Rien.
Tous nos plaisirs ne sont que vanité. Je sais qu'il n'y a point ici de satisfaction véritable et que je suis... Une ombre attachée pour un bref instant à un recoin de l'univers. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir. Mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter.
Je vous l'accorde.
Mais la géométrie n'en a pas moins pour vous grande importance.
Il est vrai.
Je ne vous comprends pas.
Savoir qu'on doit mourir doit-il nous empêcher de vivre et de penser? Je fais plus confiance à Dieu que vous. Si mon âme lui appartient, l'usage que je fais de mon esprit relève de ma volonté. Tant que je penserai, je serai. Pour le reste.
Est-ce ainsi qu'on peut définir l'éternité? Le reste, il est pour moi le tout.
Un tout dont nous n'aurons jamais ici-bas connaissance. Et c'est cela qui vous effraie, que vous n'acceptez pas. Vous vous essayez à saisir l'insaisissable.
J'en sonde seulement l'abîme. Et j'en subis l'attraction.
Pour moi, réfléchir à la mort, à l'infini, à l'éternité, est un travail qui passe mon intelligence. Je ne voudrais pas abuser du peu de temps et de loisirs qui me restent en l'employant à démêler de semblables difficultés.
Vous ne misez que sur l'intelligence. Elle n'a, en effet, rien à faire en ces questions. Et elle tient pour moi, dans l'ordre des choses à comprendre, le même rang que notre corps dans l'étendue de la nature. Autant dire le dernier.
Que mettez-vous en tête?
Un sentiment qui ne semble pas vous avoir atteint.
Nommez-le.
La misère de l'homme.
Il m'a atteint tout comme vous, bien que d'une façon moins abstraite. À votre âge, on a vu rarement mourir les gens qu'on aime. Au mien, il n'en est pas de même. J'ai connu une femme en Hollande, une simple servante, et elle a su toucher mon cœur. La fille que j'eus d'elle, et à laquelle nous donnâmes le nom de Francine, avait 5 ans quand elle fut atteinte d'une fièvre scarlatine. Elle mourut le 7 septembre de 1640. Je n'oublierai plus jamais cette date. Elle est pour moi le jour de la plus affreuse douleur que j'eus jamais sentie.
Monsieur,
je ne suis pas de ceux qui pensent que les larmes n'appartiennent qu'aux femmes.
J'ai vu jadis pleurer un homme, et je ne sais pourquoi le souvenir m'en revient aujourd'hui. Mon père avait été député par le cardinal pour réprimer une révolte de paysans qui avait éclaté en Normandie. Il s'y rendit avec les troupes du maréchal de Gassion. La levée des taxes fut rude. J'avais 17 ans à l'époque et je crois que mon père... Enfin, il était par sa fermeté l'homme que requérait la situation. Ce jour-là, je l'avais avec des soldats accompagné dans un village. Un homme dont on avait saisi les biens et les instruments de travail s'avança pour plaider sa cause. Il ne put dire un mot, les larmes l'étouffaient. Je n'en fus pas frappé sur l'instant, je crois même que je me hâtais d'oublier cette scène. Il est vrai que j'étais alors fort intéressé par la construction de ma machine arithmétique. Elle devait, dans mon intention, faciliter à mon père le calcul des impôts dont il avait la charge.
Il est certaines gens qu'on ne voit pas.
Certaines gens.
Tous ceux qui ne sont pas de la société que nous fréquentons, vous et moi.
Oui, vous avez raison. Je n'ai pas vu ce malheureux. Je le revois, mais je ne l'ai pas vu. Que Dieu me le pardonne.
On ne peut faire attention à tout. Vous étiez tout occupé par votre invention. L'esprit ne peut se concentrer que sur un seul sujet.
J'étais aveugle. Ah, monsieur, sans la grâce, où allons-nous? Que voyons-nous? Mais Dieu seul la dispense, et nous, pauvres pécheurs, nous ne pouvons que l'appeler.
Dieu a donc décidé de votre salut par avance.
Il est absolument déterminé par le décret de la toute-puissance divine, oui, je le pense. Et vous, monsieur?
Je ne le pense pas absolument.
Donc, vous ne le pensez pas?
Non, monsieur. Je crois que le chrétien, de par sa foi, se découvre exalté dans sa raison, dans son activité terrestre, et non pas un jouet dans les mains de son Créateur. Dieu m'a fait libre.
Et pourtant, nous faisons le mal. Nous sommes entraînés irrésistiblement vers le péché. Par la faute d'Adam, notre nature est corrompue. Nous ne pourrons le bien que si le Seigneur le permet, et de cette permission, nous ne sommes que quelques-uns à profiter.
Si je vous entends bien, on n'entre pas facilement au paradis.
Il faut la grâce.
Et Dieu en est fort économe.
Est-ce à nous d'en juger?
Aucunement, monsieur. Aucunement.
Connaissez-vous Antoine Arnaud?
Je n'ai pas cet honneur, mais il m'a fait tenir quelques objections de détail à l'un de mes ouvrages, et j'estime fort son esprit.
On n'imagine pas plus honnête homme.
Assurément.
Et chrétien plus fidèle à ses devoirs et à sa foi.
Vous n'avez pas à m'en convaincre, Antoine Arnaud a toute mon estime.
Eh bien, monsieur, cet homme, qui a votre estime, est menacé dans son honneur et dans sa situation, et j'ose vous prier de m'appuyer dans sa défense.
Ah, bah, menacé, dites-vous, par qui? Que lui veut-on?
Les jésuites ont cru bon de s'en prendre à son traité de la fréquente communion, et son apologie de Janssen, évêque d'Ypres, a encore excité leur fureur, de sorte qu'aujourd'hui, il est sur le point d'être exclu de la faculté de théologie et censuré par la Sorbonne. On m'a même assuré que sa prison est déjà désignée et que son arrestation est imminente. Oui, monsieur, ce juste en prison.
Tout cela est neuf.
Mais peut-être est-il encore temps d'intervenir. Peut-être n'est-il pas trop tard. M'aiderez-vous, monsieur, à sauver Antoine Arnaud?
Avez-vous un projet en sa faveur?
J'ai pensé qu'une lettre, signée de nos deux noms, bien que le mien soit moins illustre que le vôtre, aurait de quoi frapper l'opinion de toutes les personnes intéressées en cette affaire.
Une lettre...
J'en ai là le brouillon que je me suis permis.
Tout doux, monsieur. Je débarque en cette dispute et n'en connais rien que par vous. Ce n'est pas suffisant pour engager ma signature.
Il n'est plus temps d'entrer dans le détail. Si nous tardons... Monsieur, faites-moi confiance.
Et vous, monsieur, ne me prenez point à la gorge. Je sais tout comme vous que l'Écriture recommande de secourir autant qu'on peut l'innocence opprimée. Mais l'innocence, en ce qui touche à la théologie, n'est pas de nature très claire. Et je ne saurais, pour ma part, trancher hâtivement. Je vous l'ai dit, je me suis mis, par mes préoccupations et mes voyages, assez loin de cette sorte de querelle.
En celle-ci se trouve engagée la vérité et la justice et le salut d'un bon chrétien.
Ne m'avez-vous pas expliqué tout à l'heure qu'il était tout entier à la merci de Dieu?
Je parlais du salut de l'âme, et vous le savez bien. Mais c'est la liberté, l'honneur d'un homme en cette vie, qui sont pour le présent en cause. Et à cela... Nous ne pouvons nous faire sourds.
Monsieur Arnaud a ma considération, mais il peut se tromper de bonne foi. Je ne puis prendre son parti sans connaître le fond de sa pensée. Et franchement, monsieur, ce fond, pour moi, n'a que peu d'intérêt. Les théologiens sont gens chez qui je ne fréquente pas.
Mépriseriez-vous... leur étude?
J'estime inconséquent de faire appel à la raison tant qu'elle peut servir votre thèse et de la récuser dès qu'elle risque de la mettre en péril.
On essaie de comprendre et puis on arrive au mystère et on renonce. Il me semble qu'en ce sens, chacun de nous est un peu théologien sans le savoir. Mais la question n'est pas là. Dans son traité de la fréquente communion, qui lui a valu tant d'ennuis. Monsieur Arnaud s'en tient à la morale, et cela nous concerne tous. Vous en conviendrez, je l'espère.
Je n'ai pas lu de la fréquente communion.
Le sujet en est simple, et il lui fut donné par la chronique de la cour. Madame de Sablé avait-elle le droit d'aller danser le soir après avoir reçu la communion le matin?
Tant de bruit pour cela.
C'est que Madame de Sablé, qui hésitait sur la décision à prendre, a reçu de son confesseur la permission pour le bal. Ai-je besoin de vous le préciser? Son confesseur est un jésuite.
Et Monsieur Arnaud, janséniste?
Janséniste, oui, monsieur. Mais qui ne le serait, en l'occurrence?
Eh bien...
Soutiendriez-vous, par hasard, le point de vue du confesseur?
Non, je n'irai pas jusque-là. Mais je vous dirai seulement que s'il vaut mieux ne pas aller au bal le soir lorsque l'on a communié le matin, une interdiction absolue, tombant comme un couteau, peut sembler bien sévère. Écoutez-moi plutôt. Madame de Sablé pouvait avoir été obligée par son mari, ou de par sa situation, à se rendre à ce bal, sans y avoir été poussée par aucune envie personnelle. Allait-elle, avec de grands airs, s'envelopper dans la religion pour se soustraire à un devoir mondain qui ne lui procurait peut-être aucun plaisir? Et quand bien même n'aurait-elle pas vu d'un mauvais œil cette obligation de son état? La sainte communion ne pouvait-elle, en fortifiant sa vertu, l'aider à ne trouver à ce bal que le contentement permis à une honnête femme? Un jésuite peut n'être pas seul à le penser.
Vous m'avez dit avoir été de leurs élèves.
Ils m'ont appris à ne point m'en tenir sur tout ce qui touche à la vie à un seul point de vue.
Et sur tout ce qui touche à Dieu.
Dieu est en nous. Chacun lui prête son visage. Mais alors que nous acceptons la dissemblance de nos traits, nous sommes toujours prêts à nous entretuer parce que nous ne voyons pas le même Dieu.
Monsieur, il y a l'Écriture, et elle parle à tous la même langue. Je ne peux pas vous suivre.
Il vous eût peut-être fallu voyager.
Voyager?
Je pense à la mésaventure qui m'advint jadis. Je revenais par la Hongrie, la Bohême et l'Allemagne du Nord d'un tour dans l'Orient de l'Europe. Un soir, j'arrivai sur le bord de l'Elbe, qu'il me fallait franchir pour me rendre en Frise occidentale, où je comptais passer quelque temps. Une barque était là, que je louais, bien que les mariniers me parussent de basse mine. Ils me prenaient visiblement pour un riche marchand forain plutôt que pour un cavalier. Et quand nous fûmes au milieu du fleuve, je les surpris tenant conseil en ma présence. Ignorant que je connaissais leur langue, ils se concertaient librement pour m'assommer et profiter de mes dépouilles après m'avoir jeté dans l'eau. Alors je me levai soudainement, tirai l'épée, la pointai sur la gorge du chef et lui ordonnai dans sa langue de me conduire où je voulais. Ce qu'il fit de rechef sans plus rien oser contre moi.
Je vois, monsieur, que vous avez le bras aussi prompt que l'esprit.
Si prompt que, si ce misérable avait bougé, je lui perçais la gorge et l'expédiais en enfer. En avais-je le droit devant Dieu? Mais si j'avais faibli, c'est lui qui me tuait. Et comme l'on n'est jamais sûr d'être en état de grâce, je prenais moi-même un grand risque envers le ciel. Vous me direz que j'aurais dû rester en repos dans ma chambre, au lieu de me trouver ce soir-là de novembre au bord de l'Elbe, et vous aurez raison, mais enfin, j'étais embarqué.
Que voulez-vous me faire entendre?
Eh bien, que la théologie ne peut répondre clairement à tout. Quand de certains moments, il faut savoir décider promptement, sans trop s'appesantir sur les desseins que nous prêtons à Dieu. Je parle pour Madame de Sablé aussi bien que pour moi. Nous étions tous deux embarqués. Aller au bal ou rester dans son oratoire, embrocher mon futur voleur ou me laisser tuer, les théologiens là-dessus peuvent se chamailler longtemps.
Si vous le permettez, revenons à Monsieur Arnaud. Vous savez son attachement à Port-Royal. Les religieux qu'il dirige ont mis toute leur confiance en lui. Et si quelque tracasserie venait à les priver de son conseil...
À Dieu ne plaise.
Il ne lui plaira pas non plus si nous ne faisons rien pour lui.
Je vais vous parler sans détour. En tant qu'homme, Monsieur Arnaud a toute mon estime, je vous l'ai dit. Mais m'engager pour lui dans ce cas, c'est apporter ma caution à un parti.
Un parti ?
Le mot vous semble fort. Mais toute nouveauté en matière de religion crée un parti. Et donc une division dans l'État, cela ne va pas sans danger.
Je ne vous ferai pas l'affront de penser que vous avez peur pour vous-même.
Il n'y aurait pour moi point d'affront si vous alliez le penser. Mais mon départ prochain me préserve de tout péril. On ne viendra pas me chercher à Stockholm. Non, monsieur, je ne cours aucun risque à apposer ma signature au bas de votre lettre. Elle y ferait bonne figure, admettons-le, et ne me coûterait pas plus qu'une aumône. Mais je n'ai jamais fait l'aumône de mon nom. Et n'étant point d'accord sur le fond avec M. Arnaud, je lui ferais injure en ne séparant pas sa personne que je respecte de sa religion que je réprouve.
On persécute un innocent et vous argumentez. Votre raison prendra-t-elle toujours le pas sur votre cœur ?
En l'occurrence, elle le prend.
Alors, je n'ai plus rien à dire. Excusez, monsieur, d'une démarche.
Elle était tout à votre honneur. Monsieur.
Monsieur. Pardonnez-moi.
Voulez-vous que j'appelle un médecin ?
Ils n'ont jamais rien pu pour moi. Je suis plus vieux que vous, monsieur.
Vous semblez avoir froid.
Seule la fièvre me réchauffe.
Si vous souffrez de l'estomac, je vous conseille une infusion de tabac dans une boisson chaude.
Oui, mais je doute que ce remède ait grand effet sur ma migraine. Elle ne me laisse en repos que quelques heures chaque jour.
Je vous plains.
Il ne faut pas. La souffrance m'unit à Jésus-Christ. Elle est en moi ce que j'aime le plus. J'ai froid.
Que voulez-vous une couverture ?
Elle ne suffirait pas. Chez moi, j'ai des chaussons imbibés d'eau de vie pour réchauffer mes pieds. Je ne vais tout de même pas me promener avec. Mais oublions mon corps, ce n'est pas un sujet de conversation. Une épée dans une cellule.
Oh ! Elle ne m'a que peu servi.
Vous avez cependant été soldat.
Un soldat spectateur, plus soucieux d'observer les échanges de coups que d'en donner lui-même.
On m'a dit pourtant qu'un jour, vous vous battîtes en duel.
Oh, il y a longtemps. Je désarmai mon adversaire et lui fis grâce de la vie à la seule condition qu'il alla voir sans son épée la dame pour l'amour de laquelle il avait cru bon de se battre. J'ai écrit un traité d'escrime au sortir du collège.
Il y a quelque chose en moi qui vous envie.
Monsieur, vous me flattez.
Oui, j'envie votre insouciance. Il faudrait pouvoir accepter la pensée de sa mort. Je n'y suis point encore parvenu. Si mon âme ne tremblait pas, mon corps serait peut-être moins malade.
Et si vous aimiez un peu plus votre corps, si vous étiez avec lui moins sévère, il se peut alors que votre...
Je n'ai aucune envie de m'intéresser à mon corps.
Alors, je n'ai rien dit. Votre religion est terrible, monsieur.
Exigeante envers ceux qui la pratiquent. Oui, je le reconnais. Et cela... sont les plus innocents, les meilleurs gens du monde. Ils prient, ils étudient, ils font le bien. De quoi s'offusque le pouvoir ? Et pourtant, sa colère est sur eux.
Il a peut-être ses raisons.
S'il en a contre Port-Royal, il les tient des jésuites. Et l'on sait de quoi est capable un jésuite. J'écrirai là-dessus. Je serai peut-être le seul, mais j'écrirai. Soyez-en sûrs.
Et cela nous vaudra un bel ouvrage, assurément. Ne tardez pas à l'entreprendre, il servira certainement les intérêts de vos amis. Hier, je me promenais sur le pont Neuf. Je vous ai dit, je crois, combien j'aime la flânerie. Quand un pauvre homme m'aborda pour me demander humblement la charité, ce ne fut qu'au bout d'un moment que je le reconnus, tant sa mise était misérable. Et cependant, monsieur, il y a de cela quelques années, cet homme m'a sauvé la vie. Je voyageais cet hiver-là, un rude hiver, dans le nord de la France, en Picardie. Quand, une nuit, à la corne d'un petit bois, mon cheval s'abattit sur la glace et je restai sous lui, la jambe prise, étourdi par la chute et si faible que je sentais venir la mort avec le froid sans même pouvoir appeler. Vint le moment où je perdis l'essence. Quand je revins à moi, j'étais dans une hutte, étendu sur une paillasse, et l'homme qui m'avait sauvé me regardait avec un bon sourire à la lueur du feu qu'il avait allumé. J'avais une forte fièvre et ne prêtai que peu d'attention aux propos qu'il me tint jusqu'à l'aube. Un grand bavard que ce pauvre homme, et un simple d'esprit qui, tout en me soignant, entreprit sérieusement de m'expliquer les mystères de la Trinité, de la nature humaine de Jésus et de... je ne sais plus quoi encore. Ah si, je me souviens. Il prétendait savoir la composition du lait de la Vierge. Est-il besoin de vous le dire, je n'accordais nulle importance à ce babil. En revanche, je n'ai jamais oublié la bonté de cet homme et tout le soin qu'il prit de ma personne en cette nuit d'hiver.
Frère Saint-Ange.
Oui. Vous le connaissez, je crois, frère Saint-Ange, un capucin, de son vrai nom, Jacques Forton.
Il vous a raconté.
Il m'a dit qu'il y a quelques mois, un jeune homme d'une grande piété était venu le voir pour se faire expliquer en détail son éclaircissement des mystères, à la suite de quoi ce jeune homme le dénonça, document à l'appui, comme hérétique à l'archevêque de Rouen. Il fut donc obligé de jeter son froc aux orties et de s'enfuir loin de cette province où il passait sa vie à secourir les pauvres. Et c'est ainsi qu'il était devenu mendiant sur le pont Neuf, où je le rencontrais.
Je n'ai jamais voulu cela.
Vous l'avez pourtant dénoncé.
Pouvait-on accepter qu'il répandît dans les campagnes?
Allons, monsieur! Les braves gens qui l'assistaient connaissaient sa marotte, et vous êtes peut-être le seul qui prit au sérieux ses malivernes. En revanche, il faisait la charité qu'il demande à présent. Je doute que la religion ait gagné dans cette affaire.
Un capucin est un homme de Dieu. Frère Saint-Ange tirait de son habit une autorité sur les âmes. Il en était comptable.
Devant le ciel.
Et devant la religion.
Je ne crois pas qu'il la mettait en grand péril.
On ne peut pas toucher au mystère et prétendre les expliquer.
Il y avait ce qu'il disait et qui n'importait à personne. Et il y avait sa bonté, sa gaieté, son innocence. Elle tire du bien à beaucoup. J'ai retrouvé un homme amer et qui ne comprend pas que le ciel l'ait abandonné. Que pouvais-je lui dire? Je ne crois pas que vous ayez bien fait. Monsieur.
Je ne sais plus. Je croyais être dans le vrai, mais maintenant, je ne sais plus. La vérité de Dieu n'était peut-être pas la mienne en cette affaire.
Avez-vous agi seul?
Oui. Enfin, non. Des amis m'ont encouragé. Ils pensaient, comme moi, des mystères et du respect que le chrétien leur doit. Nous avons agi de concert.
Et c'est à ses amis sans doute que vous devez de vous être donné à Dieu selon une nouvelle voie.
Oui, monsieur. Ses amis, en effet, sont des adeptes de Janssen, évêque d'Ypres. N'était-ce pas là ce que vous vouliez me faire dire?
Eh bien, monsieur, je ne crois pas que vos amis seront jamais les miens.
Allez, vous n'êtes pas le seul à ne point les aimer. Vous avez pour vous le pouvoir, la Sorbonne, la Société de Jésus. Ce sont de puissants alliés. Et je gagerai que bientôt, l'orage va crever sur le vallon de Port-Royal.
Ne croyez pas que je m'en réjouisse. Il n'est pas de mon fait d'être content de voir les gens souffrir pour leurs convictions. Chacun devrait pouvoir penser à l'aise et dire ce qu'il pense à sa façon et sans trembler.
Les jansénistes n'ont pas besoin de cette aumône.
Une aumône?
Ils ne veulent pas devoir leur vie à cette sorte d'accommodement que vous prêchez, mais à la vérité divine.
En seriez-vous par hasard le détenteur?
Elle est dans l'Écriture sainte, il m'a suffi de l'y chercher.
On trouve ce qu'on veut dans l'Écriture.
Est-ce à dire, monsieur, que j'y aurais mis à dessein ce qui n'y était pas? Est-ce là ce que vous pensez?
Je n'ai pas dit cela.
Vous l'avez dit sans tout à fait le dire.
Allons, monsieur, ne vous échauffez pas et admettez que le pouvoir...
Ainsi, vous prendriez son parti dans cette affaire.
Je ne doute pas un instant que ces messieurs de Port-Royal soient les meilleurs des hommes. Mais que font-ils? Sous le prétexte que le monde est foncièrement mauvais, irréformable, ils se retirent au désert, afin d'y respirer un air moins corrompu et de se préserver de la tentation entre saintes personnes.
Afin d'y faire leur salut.
Oui, c'est cela que je disais.
Est-ce le roi, monsieur, qui fait cette vie acceptable? Est-il en son pouvoir de nous préserver de la mort, du mal, de la damnation? Quelque bon prince qu'il soit, son royaume appartient à la chute. Et ne serait-ce pas une folie que de nous faire une raison sur cette terre?
Il nous faut cependant y vivre, et du mieux qu'on peut.
Oui, le temps de nous préparer à la vraie vie qui nous attend au-delà des illusions et des chagrins dont nous sommes les prisonniers.
On dirait que pour vous, donner à la création, c'est enlever au Créateur.
Il nous a fait pour lui, et sans lui, nous ne pouvons rien.
Nous pouvons ne pas nous haïr, comme vous voudriez que nous le fissions. Il faut s'aimer un peu, me semble-t-il, si nous voulons aimer. Et vous, monsieur, vous ne cessez de vous combattre et de vous cracher au visage.
Je n'aime que le Christ en moi.
Vous l'aimez en vous déchirant, en immolant votre raison et votre liberté. Vous ne l'aimez qu'en vous faisant peur à vous-même. Étrange amour.
Je ne peux pas me faire la condition humaine.
Voilà, tout est là. Vous ne consentez pas.
Si je n'avais l'espérance, quand on s'est vu des nuits durant devenir son propre cadavre, quand on a respiré sa puanteur, quand on a touché à sa boue...
Allons, monsieur, cessez de vous complaire à votre enterrement. On ne peut pas passer son temps à se détailler sa faiblesse et à gémir sur sa peinture. Je ne suis pas plus fort que vous, quoi que vous en pensiez. Et je me garderai de donner mon courage en exemple. Et oui, monsieur, je suis prudent. Et quand je dis prudent... Savez-vous que j'ai travaillé 3 ans à un ouvrage où je soutenais l'opinion de Copernic touchant au mouvement de la Terre autour du Soleil? Or, quand j'ai appris la condamnation de Galilée pour avoir soutenu la même thèse, j'ai renoncé à publier mon livre. Et cependant, tout comme lui, je suis sûr que la Terre tourne autour du Soleil. Mais cette vérité pouvant être pour moi source d'ennui, j'ai préféré ne pas la dire.
Je ne vous savais pas si soucieux de votre accord avec l'Église.
Elle est puissante et soupçonneuse. Et je ne suis pas courageux tous les jours.
Cette franchise vous honore.
Nous n'avons plus que peu de temps. Je m'apprête au départ. Et il serait fâcheux de nous quitter sans nous être rien dit. Il y aurait, je crois, mieux à faire. Si quelqu'un peut mener à bien ce que j'ai commencé, c'est vous, monsieur, et rien que vous, de tous les hommes de ce temps. Je sais que vous ne faites pas grand cas de votre intelligence, et avec quel acharnement vous essayez de l'abaisser. C'est à elle, pourtant, que j'en appelle. Elle peut relayer la mienne, et vous mener où je n'aurai sans doute pas le temps de parvenir. Thank you. Il ne me suffit pas de croire. Je veux savoir. Serait-ce un péché à vos yeux?
Monsieur, je suis dans une ignorance terrible. Et cette partie même de moi qui pense ce que je dis ne se connaît non plus que le reste. Je ne vois que des infinis qui m'enferment comme un atome. Et de moi, je sais seulement que je ne suis ici qu'une ombre sans retour et de peu de durée.
Un homme de votre valeur, de votre qualité, ne devrait pas mettre tout son génie au service de son effroi. J'irai plus loin, je me suis demandé parfois, vous entendant parler, s'il n'y avait pas du système en votre désolation. Et je vous verrai volontiers, dès que vous vous mettez à la philosophie, reprendre en vous frottant les mains le fil de vos gémissements.
Si vous me voyez sous ces traits, c'est que je n'ai pas su me faire connaître de vous. Mais mon talent a ses limites, je ne peux pas la pousser plus loin. Nous ne nous appartenons pas, et nous ne sommes pas d'ici.
Notre intelligence est à nous. Une dernière fois, monsieur, j'en appelle au pouvoir de votre esprit. Vous savez que l'univers est fonction de la mesure et du nombre, espace et temps qui sont liés, oui, liés dans le mouvement. Et l'on peut calculer le mouvement.
On le peut.
Accepteriez-vous de travailler à partir de cette certitude?
Et à quoi parviendrai-je? À une équation? Ne me faites pas rire.
À une équation, en effet. À une équation où viendraient s'éclairer en se fondant toutes les lois de l'univers. N'est-ce donc rien, cela?
Ce vers quoi j'aspire est au-delà de la mathématique. Il se fait tard, je vous ai pris beaucoup de temps et je vous ai déçu. Pardonnez-moi. Je n'entends plus le langage des nombres et il me faut une réponse. Souffrir mène où je vais.
Adieu, monsieur. Nous ne pouvions rien nous donner, mais je ne vous oublierai pas.
Nous nous retrouverons peut-être.
Ici, j'en doute. Il fait grand froid chez la Reine des Neiges.
C'était l'entretien de Monsieur Descartes avec Monsieur Pascal Lejeune, de Jean-Claude Briseville, avec Daniel et William Mesguiche.
Et les objectifs, en bas c'est la terre. La terre, c'est la langue et la nation. Ça, j'en prendrai un exemple dans un instant. Ce qui se passe, et ce qui moi m'a frappé, qui a été au fond le point de départ des langues du paradis, ce livre, c'est que lorsque la grammaire comparée, la comparaison entre les langues que Bob fonde dans les premières années du 19e siècle se met en place, c'est juste après la découverte du sanskrit dans le monde occidental. Et ce qui se passe, font les langues du paradis, le bouquin, raconte en quelque sorte les conflits intellectuels et scientifiques entre l'hébreu et le sanskrit. Et c'est là, vous avez raison, où toutes les lectures des pères de l'Église, toute l'histoire de l'Église qui a voulu affirmer que l'hébreu était les langues du paradis, cette histoire-là va